Aujourd'hui, avant de parler de la finance islamique, on va parler de l'économie, de l'argent, peut-être un peu de la finance, mais surtout de l'histoire de l'économie, en fait, hein, et de l'influence de la pensée chrétienne, en particulier, sur ce champ de l'activité humaine. Et donc pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Delauzin. C'est la première fois que vous intervenez chez nous, Pierre. Donc très heureux que ça démarre avec vous cette collaboration. Vous avez fait carrière dans la banque et la finance. Vous étiez jusqu'en juin 2018, le délégué général de l'Association française des marchés financiers, l'AMFI. Après d'autres activités, notamment de direction de cabinet au ministère, vous avez une riche carrière de serviteur de l'État. Et vous êtes engagé en parallèle, et c'est aussi pour ça que vous êtes ici, parce que vous avez une double filiation, je dirais, engagé dans plusieurs associations, notamment d'inspiration chrétienne, dont l'Académie catholique et les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et vous avez, en parallèle de ça, développé une large réflexion et des travaux de recherche, en réalité, sur, qu'est-ce que le christianisme peut dire aujourd'hui, peut apporter sur ces champs. Est-ce qu'il a encore quelque chose à dire, d'ailleurs, comment? Voilà. Alors, on vous a proposé d'intervenir cette année sur un thème qui est un peu particulier, puisque c'est sur l'histoire. Et on va donc parler bien de la compréhension de l'économie au Moyen-Âge, comment ça fonctionne à cette époque-là, avant saint Thomas, puis après saint Thomas, puisqu'il y a des évolutions à ce moment-là. On évoquera par exemple la problématique du prix et de l'usure, enfin la question de l'usure et du prêt, par comment cette conception de l'usure et du prêt a évolué dans la pensée du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Et puis, pour arriver à la période charnière, d'Adam Smith, jusqu'à Max Weber. Donc voilà, pour résumer, on part de un petit peu avant saint Thomas d'Aquin, on passe par Adam Smith, et on arrive à Max Weber, tout ça en une heure. Donc ça fait une toute petite conférence sur un tout petit sujet.
Un petit sujet, oui. Non, mais si je vois des personnes qui s'effondrent, j'en tiendrai compte dans le propos. Je voulais juste commencer un petit peu plus tôt, moi encore, dans les évangiles.
Ah ben c'est très bien.
Pour les évangiles. Alors oui, j'ai quand même une question préalable. Vous êtes tous très familiers avec le christianisme, moyen, pas du tout. Que ça influence mais la manière d'expliquer, je dirais. C'est une question.
On peut répondre pour
ce monde. Normalement, vous devez être expert, mais enfin bon.
Non, ben non, parce qu'ici, il y a des gens qui viennent qui sont de toute profession.
Oui, mais qui ont suivi déjà.
Ah, ils ont
un cycle.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, bon, si vous voulez, je pars des évangiles parce que moi, j'ai fait une observation très particulière. Savoir qu'il y a dans les évangiles un nombre considérable de paraboles qui ont un thème économique ou financier comme, base du récit et base du raisonnement de la parabole. Ça ne veut pas dire que la parabole vise à donner essentiellement un enseignement économique et financier, évidemment pas. C'est un enseignement essentiellement religieux, éthique, etc. Mais il y a une utilisation massive de thèmes économiques et financiers. Et de thèmes économiques et financiers pris dans la vie quotidienne, dans ce qui était une économie assez peu développée, mais néanmoins une économie où il y avait la monnaie, des marchés, des prix, etc. Donc le Christ, notamment, puisque je parle essentiellement des évangiles, prend tous ces faits de la vie quotidienne et les utilise pour faire passer un message, évidemment, qui lui va largement au-delà. Alors ça paraît presque évident. La différence, c'est que vous trouvez ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous ne le trouvez pas dans d'autres religions. On peut parler évidemment de riches, de pauvres, etc. Mais où il n'y a pas de parabole économique, de récit économique ou de raisonnement économique. Mais vous ne le trouvez pas non plus dans l'Ancien Testament, qui parle beaucoup de riches et des pauvres, mais qui ne fait pas ce genre de raisonnement, et assez peu dans les Épîtres après. Donc c'est quand même très spécifique, et à mon avis, ça marquera beaucoup le christianisme. Alors il y a des thèmes, évidemment, qui sont des thèmes, d'abord, je dirais un premier stade, qui est un stade, la vie économique courante, où il y a des thèmes de calcul rationnel. On dit que, par exemple, il y a quelqu'un qui veut conduire, monter une tour, ben on dit, ben oui, il commence à calculer ce qu'il faut, etc., sinon il sera ridicule, et ainsi de suite. Vous avez les vierges sages et les vierges folles, les vierges sages savent prévoir qu'il faut avoir de l'huile pour pouvoir avoir sa lampe pendant la nuit, et donc et les autres sont mises dehors parce que précisément elles n'ont pas l'huile au moment où elles devraient l'avoir. Vous avez même ce que j'appelle un arbitrage financier, c'est l'histoire du personne qui apprend qu'il y a un trésor qui est caché dans un champ. Et il vend ce qu'il a pour acheter le champ. Alors, bien entendu, ça suppose que le prix du champ n'incorpore pas l'information, parce que si le prix du champ incorporait la valeur du trésor, ça n'aurait aucun intérêt. Donc en réalité, c'est ce qu'on appelle un arbitrage en finance, c'est-à-dire que vous savez ou vous pensez par vos raisonnements qu'un bien vaut beaucoup plus que ce qu'il vaut dans le prix courant, donc vous l'achetez. Et puis ensuite, évidemment, vous extrayez la valeur de ce que vous avez acheté moins cher. Alors ce qui est intéressant, c'est que, fait le raisonnement, bon, bien entendu, c'est pour montrer l'importance de la vie éternelle. Donc ce n'est pas pour dire aux gens, en fait, des arbitrages financiers. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comme il en parle et comme on comprend que les gens réalisent. C'est-à-dire que tout le monde comprend. Tout le monde, évidemment, voit de quoi il s'agit. Donc à ce moment-là, les gens ayant été saisis par une réalité de leur vie quotidienne qu'ils comprenaient, il est possible à ce moment-là de dire, ah bah attendez, c'est pareil pour la vie éternelle, et à ce moment-là de développer bien, bien au-delà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le raisonnement, qui est un raisonnement purement économique. Vous avez aussi beaucoup de cas où on vous parle de prix, on vous donne même le prix de moineau sur le marché. Vous avez beaucoup d'effets multiplicatifs, c'est-à-dire vous investissez, ça produit, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de cas où on vous parle de trésor, là où est ton trésor, là est ton cœur, etc. Vous avez beaucoup de cas où on vous parle de dette, donc il y a une économie de dette. Il n'est jamais dit que ce qui est dû n'est pas dû, ce qui est dû est dû. Il est vertueux dans beaucoup de cas de le remettre, notamment quand la personne n'est pas en état, mais il n'est pas dit que ce n'est pas dû. Et donc vous voyez finalement une économie décrite dans ses détails, assez classique, où les réalités de base d'une économie décentralisée, avec une propriété, un marché, de la monnaie, etc., existent, et où on prend le raisonnement sans le critiquer. Alors ensuite, vous passez à des paraboles qui sont déjà un peu plus, dérangeantes. Alors évidemment, il y a le cas de la parabole des talents, c'est-à-dire... très rapidement, il y a un maître qui part en voyage, il lui donne 10 talents à un serviteur, 5 à l'autre, et 1 au dernier. Ou 2 à l'autre, je ne me rappelle plus. Enfin, peu importe, les deux récits n'ont pas les mêmes chiffres, mais ça n'a pas d'importance. Et il revient, il demande ce qu'ils ont fait. Celui qui a fait 10, il dit, ben, voilà, j'ai 10, j'ai investi, j'ai travaillé, etc. Je t'en ramène 10 de plus. Enfin, bravo, il félicite, il récompense. Celui qui a 5, pareil, il en ramène 5 de plus. Puis l'autre, il disait, voilà, moi j'ai eu la trouille. Je sais que tu es dans le genre, les talents, c'était du métal précieux. Donc, il a enfoui, il dit, voilà, je te le rends. Et le maître est furieux. Il lui dit, tu aurais pu au moins le mettre à la banque et obtenir des intérêts. Et il le met dehors. Et il lui prend le talent et il le donne à celui qui en avait déjà 10. Donc, le maître est présenté comme dur, là. Donc, on ne peut pas dire que le maître, c'est l'image de Dieu. Mais il y a quand même une idée extrêmement claire, c'est... l'idée de fructification matérielle. Bien entendu, le message qui a été compris au fil des siècles n'est pas d'abord de fructification matérielle. Mais il utilise le message de fructification matérielle sans le remettre directement en cause pour donner l'idée d'une fructification beaucoup plus large. C'est ce qui fait que dans nos langues, le mot talent a pris un sens beaucoup plus large et devenu le talent, c'est-à-dire quelque chose qu'on sait faire bien. Alors qu'à l'origine, c'était uniquement... une quantité, notamment d'argent. Alors vous en avez un autre qui est tout à fait curieux, qui est la parabole de l'intendant infidèle. C'est-à-dire, vous avez un maître qui avait un régisseur, un intendant, et puis l'intendant le trompe et le vole. Il l'apprend, donc l'intendant se dit, je suis fichu, j'ai aucune envie d'être à la rue et de mendier, donc il prend les créances qu'avait le maître sur un certain nombre de gens, Il dit, voilà, toi tu dois combien? 100, très bien, tu mets 80. Toi tu dois combien? 70, très bien, tu mets 50. Et ainsi de suite. Le maître apprend ça et il dit bravo. Il dit pas bravo sur le fait que c'est bien parce qu'il évolue, etc. Mais il dit, ce type est astucieux, ce type est intelligent. Et il dit à ce moment-là, si les enfants de lumière étaient aussi intelligents que les enfants des ténèbres, ça serait quand même beaucoup mieux. Donc, il y a toujours cette idée, je prends ce raisonnement de la vie quotidienne, et la vie quotidienne, c'est en grande partie une vie économique, hein, la vie quotidienne, je le déroule, bien entendu, je dis aller au-delà, mais néanmoins, j'ai pris ce raisonnement comme base. Alors, il va plus loin, c'est qu'après, il reprend le thème de l'argent, et il dit aux gens, faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité. Mammon, c'est l'argent personnifié. Donc, faites-vous des amis avec ce mammon d'iniquité. Autrement dit, ce truc, objectivement, est assez dangereux et tentateur. Il ne s'agit pas de le, comme le type qui a enfouissé, il ne s'agit pas de laisser mourir. Il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. Donc, faites-vous des amis. Et notamment, évidemment, un moyen de faire des amis, c'est de donner. Alors, c'est là où vous avez un renversement du raisonnement. C'est une deuxième étape majeure dans le raisonnement des évangiles. Vous avez d'abord évidemment des anathèmes très musclés contre les riches. Par exemple, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau de passer la porte de l'aiguille. Alors, la porte de l'aiguille, c'est le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille, c'était un passage à Jérusalem, donc c'est quand même pas un chameau dans une aiguille pour coudre. Mais quand même, ça veut dire c'est difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les apôtres, ils réagissent non pas en disant ah ouais, les riches, ouh là là. Mais alors, c'est très dur pour entrer. Ils ont très bien compris que eux aussi pouvaient être, entre guillemets, riches, pas au même degré, mais riches parce qu'ils s'attachent trop aux choses. Et donc là, on est dans un deuxième message tout à fait différent, qui après avoir dit tout ça est valide, mais attendez, maintenant, moi je vous garde vos calculs économiques, mais dans le calcul, vous introduisez un facteur infini, qui s'appelle la vie éternelle. L'amour infini de Dieu pendant une vie éternelle, donc infinie. Bon, alors refaites votre calcul, vous allez voir. Évidemment, il faut investir là-dessus. Parce que ici, tout ce que vous avez, ça peut être pris par les voleurs, ça peut y avoir la rouille, etc. Et puis, de toute façon, quand vous mourrez, vous ne l'aurez plus. Donc, vous avez un intérêt massif à mettre le paquet, c'est-à-dire le mammon d'iniquité, le mettre le paquet sur la vie éternelle. Alors, par exemple, un moyen, c'est de donner aux pauvres. De nouveau, un raisonnement économique. Voyons. Si je donne à un riche, vous donnez à un riche, le riche, il vous le rendra. Donc, opération blanche. Vous n'avez rien gagné, rien perdu. Vous donnez aux pauvres. Bon, il ne peut pas vous rendre. Donc, il rend. Ben, c'est Dieu. Et Dieu vous le rend au centuple. Donc, c'est un bien meilleur calcul de donner aux pauvres que de donner aux riches. Je n'ai pas dit exactement comme je le dis, mais le raisonnement est exactement celui-là. Donc, vous voyez que même lorsqu'il s'agit de passer à quelque chose qui, en réalité, remet en question la vie économique courante, elle est toujours utilisée, elle n'est pas niée. Une religion d'incarnation, et donc la réalité matérielle n'est pas niée, mais on met à côté une réalité infinie qui, évidemment, opère un peu comme un joker et qui change complètement la valeur des choses. Et donc, à partir de ce moment-là, on va considérer mais complètement différent le problème de la richesse. Vous avez d'un côté un jeune homme riche qui va voir le Christ et qui lui dit, voilà, moi je suis vertueux, j'ai fait tout ce qu'il fallait, etc. Puis Jésus, en fait, le prend en affection. Donc le type devait être un brave type, quoi, en fait. Alors à ce moment-là, il se dit, mais attends, tu veux être parfait, c'est-à-dire pas avoir la vie éternelle, un degré au-dessus, tu veux être parfait. Il dit, oui, bon, très bien, alors tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. Et puis alors, le gars part tout triste parce que, bon, il est vertueux, mais enfin, faut pas exagérer quand même. Donc, il part. Donc, il lui était demandé de tout abandonner. En revanche, il y en a d'autres à qui ce n'est pas demandé. Vous avez l'ineffable Zachée, un confrère à moi, enfin, quelqu'un dans la finance. Et donc, Zachée est un publicain, c'est-à-dire. C'était des entrepreneurs à ferme. Ils achetaient auprès du trésor donc, romain à l'époque le droit à lever l'impôt à sa place, en fait. Ils payaient une somme forfaitaire et après ils récupéraient ce qu'ils pouvaient récupérer. Donc, comme les fermiers généraux d'ailleurs au XVIIIe siècle. Donc, sachez, les gens qui faisaient ça n'avaient pas une bonne image et pour cause, parce qu'après il y a des pressions à les gens. Bon. Donc, Zachée se convertit en voyant le Christ. Mais. Le Christ va chez lui, donc on reconnaît le geste et l'honore publiquement. mais lui demande pas de tout abandonner. Le Zachée en question abandonne la moitié de ses biens et rend au quadruple ce qu'il a volé à droite et à gauche. Bon, je sais pas comment les calculs collent, mais enfin, le message est quand même, n'est pas, tu donnes tout. Autre exemple, évidemment, encore plus connu, Nicodème, Joseph d'Arimathie, qui joue un rôle décisif au moment de la mort du Christ pour demander le corps à Pilate et le mettre au tombeau. Bah, c'est évident que s'il n'était pas riche et puissant, il n'aurait jamais pu faire ça. Donc, vous avez un rôle providentiel aussi. Et donc, on retrouve les paraboles antérieures. Il y a un rôle providentiel qui peut être donné à ça. Mais ça peut être donné que si, bien entendu, comme dit saint Paul, on possède l'argent sans le posséder. Donc, vous voyez que dans les évangiles, vous avez une attitude à la fois intense, mais étagée à deux niveaux par rapport aux richesses matérielles et par rapport à l'argent. En un sens, vous avez cette idée-là dans la fameuse maxime « Rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu », parce qu'en général, on l'applique au niveau politique, et on a totalement raison, bien entendu, c'est au niveau politique. En fait, c'est une pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie. Donc il y a bien l'idée, tu auras un César, là, c'est la réalité de ce monde. Ça disparaîtra. De toute façon, toi, la pièce que tu auras donnée ou pas donnée, tu ne l'auras plus quand tu seras mort. Mais rends à Dieu ce qui est à Dieu, parce que ben, lui, tu l'auras pendant l'éternité, si évidemment tu vas dans le bon sens. Donc, on voit qu'il y a un rôle très central de l'économie comme thème, comme thème validé, comme utilisation des biens matériels et de l'argent, mais avec une perspective qui, en ne niant pas le calcul économique, conduit le calcul économique à aller bien au-delà. C'est-à-dire, en gros, le calcul poussé jusqu'au bout vous conduit à arrêter de calculer et à donner. Et éventuellement, infiniment. Donc, vous allez avoir cette dualité qui va traverser toute la, je dirais, la réaction des chrétiens, des penseurs chrétiens, tels qu'on peut les voir, notamment après tout ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire tout un ensemble d'auteurs grecs et latins pendant plusieurs siècles, qui vont être en général assez critiques sur l'argent et sur son utilisation, mais en même temps, plutôt dans le sens du don. C'est-à-dire qu'ils vont secouer éventuellement énormément de riches, c'est une société extrêmement inégalitaire, et donc une société dans laquelle il s'agissait de secouer le riche pour le réveiller par rapport à ses chers petits plaisirs et l'obliger à montrer une fraternité. Donc ils y vont assez vigoureusement. Vous retrouvez des accents de ce genre-là chez Pape François, d'ailleurs, mais en fait, vous le trouvez pendant toute l'histoire, hein, à des degrés divers. Alors, vous avez un petit creux, évidemment, pendant les périodes difficiles entre le 6e et le 7e et le 10e siècle, et puis vous arrivez au Moyen-Âge qui est très intéressant, parce qu'au Moyen-Âge, vous avez une reprise, si j'ose dire, de cette espèce de dialogue du christianisme avec l'économie. Alors, vous en avez une reprise pratique dans les monastères. Parce qu'en gros, moi je compare un diocèse à une préfecture. C'est une institution et ça ne bouge pas. Et je compare un monastère à une entreprise. Parce qu'un monastère est une entreprise. Ça se développe à l'appel de quelqu'un qui s'entoure de disciples. Il peut être reconnu à un moment donné par l'autorité, mais l'autorité ne lui garantit rien. Si le monastère n'arrive pas à attirer des disciples, à se développer et surtout à vivre économiquement, ça ne marche pas. Alors, quelle est la base du monastère? C'est « ora et labora », donc « ora », prix, et « labora », travail. Donc, le travail matériel, et ça, vous le trouvez dès les origines du christianisme, saint Paul faisait un point d'honneur à travailler pour gagner sa vie, et non pas pour être entretenu par les disciples ici ou là, vous trouvez une réhabilitation massive du travail, et notamment du travail matériel. Ce qui, comme nous en sommes imprégnés, nous apparaît assez évident, mais qu'elle n'est pas du tout de soi dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, ce qui était prisé, qui était noble ou chic, notamment pour les philosophes, n'était pas l'inactivité, mais c'était du travail noble, c'est-à-dire du travail intellectuel, la philosophie, la contemplation, etc. Bon, éventuellement dans d'autres couches de la société, l'armée ou la politique, mais pas le travail au sens économique du terme. En revanche, là, il va être valorisé, et cette valorisation, encore un peu théorique avant, dans le cas des moines, prend un côté concret et un côté visible pour tout le monde. C'est-à-dire que les populations chrétiennes voyaient ces moines arriver, défricher une forêt, et la mettre en valeur avec des résultats spectaculaires qui, dans la, en plus, la région, évidemment, profitait, notamment les pauvres, parce qu'il y a toujours des tas de pauvres agglomérés autour des monastères, parce que le monastère de distribuer, je veux dire, mais aussi dans la population qui voyait les réalisations, notamment avec des innovations technologiques intéressantes. Parce que le Moyen-Âge est une époque d'innovation technologique assez forte. C'est-à-dire, l'image qu'on en a habituellement est extrêmement erronée. Bien entendu, c'était une époque très anarchique et violente, mais c'était une époque aussi de très grande créativité. Vous avez des monastères, il y a un célèbre monastère cistercien en Angleterre, où ils avaient organisé, utilisant l'énergie hydraulique, tout un système par lequel, non seulement l'eau, par sa propre force, s'amenait dans toutes les parties du monastère, mais il y avait des roues, des moulins, des moulins à eau, donc des roues, qui circulaient et qui faisaient un tas de choses, donc porter des objets, amener des choses, faire tourner le moulin pour le blé, et ainsi de suite. Donc des développements qui apparaissaient complètement naturels. Mais bien entendu, c'est ora et labora, la priorité c'est ora. Donc la priorité pour les moines, c'était l'office divin, donc cette prière du jour et celle de l'office de nuit. Et l'un des intérêts principalement de ces découvertes techniques, c'est que ça donnait plus de temps encore pour ou prier ou étudier les écritures, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas pour mettre au centre la réalisation matérielle ou économique. Mais néanmoins, il y avait cette culture et cet état d'esprit. Et donc ensuite, vous allez avoir une deuxième étape beaucoup plus significative pour nous, qui est une nouvelle génération religieuse qu'on appelle les ordres mendiants, c'est-à-dire franciscains, dominicains, beaucoup moins pour notre propos les carmes, mais surtout franciscains et dominicains, qui sont des ordres urbains. Ce sont des religieux, mais pas comme, ils n'ont pas de monastère, et au moins au départ, ils renoncent à toute propriété, même collective. Alors le moine bénédictin ou cistercien n'a pas de propriété, lui, mais le monastère, collectivement, en a. Tandis que là, il n'y en a pas. Donc, bien entendu, ils ont des locaux ou autres, mais qui sont propriétés de civils amis. Et ces gens se développent au moment où, en Italie, vous avez l'explosion, une explosion économique, c'est-à-dire un développement, une renaissance massive d'activités, d'abord du grand commerce, et puis d'un artisanat très développé, notamment de textiles. Et donc, une très grande richesse qui se développe. Et une créativité que nous, dans ce domaine que nous appelons maintenant financier. Il faut rappeler que les mots de finance, banque, intérêt, agio sont des mots italiens datant de cette époque où ces Italiens catholiques ont inventé la banque et la finance. En fait, pour l'Occident, il y en a eu dans d'autres civilisations, hein, mais dans la nôtre, c'est bien eux qui l'ont inventé et qui l'ont développé. Alors voilà, ces franciscains et ces dominicains, ils étaient là en ville. Et les marchands voulaient se confesser. Et alors, ils auraient pu faire un peu comme un certain nombre d'ecclésiastiques aujourd'hui, leur balancer des anathèmes, etc. Ils se sont dit, non, ils se confessent, donc il faut qu'on voit avec précision ce qui est bien et mal. Et que là où il fait le bien, je l'encourage, et là où il fait le mal, il confesse son péché, il arrête. Mais pour que je sache ça, il faut que j'analyse ce qu'il fait. Et donc ils sont mis à analyser les opérations des marchands. Alors il y a notamment ce thème majeur qui est le juste prix. Ce qu'on appelle le juste prix, c'est de savoir est-ce que je vends à un prix qui est correct sans voler l'autre. Principe de base, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On l'applique là. Si je pratique un prix excessif, je fais ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Donc je fais du mal. Bon, très bien, mais comment ça marche le prix ? Et donc ils ont réfléchi à ce qu'était un prix. Et qu'ils ont relié, non pas à la valeur travail, comme on le dit parfois, qui sera les thèses de Ricardo au XIXe siècle, etc., mais au besoin, indigencia, le besoin humain. Et un besoin humain est forcément variable et subjectif. Donc ils notent que ce prix varie selon les temps et les lieux. À ce moment-là, il y a la question aussi de savoir est-ce qu'il est licite de profiter de ces différentiels de prix. En gros, ce qu'ils disent, si vous le faites à l'intérieur d'une même communauté, non, parce qu'il y a un prix qui s'est établi localement, qui est en fait le prix du marché local, s'il n'y a pas eu d'abus de position de force, et là, ils insistent beaucoup sur les problèmes de position de force, mais oui, si ça évolue dans le temps ou dans l'espace. Autrement dit, le prix peut varier dans le temps parce que la quantité ou le besoin aura varié, et dans l'espace. Question par exemple, est-il licite pour un marchand qui achète du blé pas cher à Valence où il y en a beaucoup et qui veut le vendre cher à Saragosse où il n'y en a pas beaucoup? La réponse, oui, c'est parfaitement licite si c'est un prix local, c'est-à-dire le prix qui s'est établi localement dans la communauté qui est là, selon l'offre et la demande locale. Bon, il serait plus vertueux de le dire, qu'il arrive avec plus de blé et qu'il ferait baisser le prix, évidemment, localement. Mais il n'est pas tenu, parce que ce prix est un prix d'équilibre qui s'est établi localement. Donc, vous voyez, une conception, alors, qui après se raffinera, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui se base sur une analyse des faits. Et c'est en analysant les faits que je regarde si c'est bon ou si c'est mauvais. Vous trouvez déjà les linéaments de ce raisonnement-là, très clairement, dans Saint Thomas d'Aquin. Bon, Thomas d'Aquin, vous savez, un rôle totalement fondateur dans la pensée théologique, dans la mesure où il a fait la première synthèse forte avec une philosophie qui, au départ, était considérée comme éloignée, qui est la philosophie d'Aristote. Alors, vous avez entendu, vous avez chez les Pères Lévis, Saint-Augustin, beaucoup d'influence de Platon, des néoplatoniciens, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas cet effet de synthèse qui réalise. Qui, comme la pensée d'aristotélicienne, une pensée réaliste, pas une pensée idéaliste, une pensée qui est tournée vers l'idéal, mais qui prend la réalité. En gros, l'idée de génie, c'est de dire, mais il y a une affinité avec ce côté religion enracinée, religion incarnée, et où doit y avoir les deux aspects, qu'il y a aussi en économie, bien entendu, entre l'aspect concret de la vie réelle de tous les jours, qui n'est pas mauvais en lui-même, et puis le fait qu'il soit tourné vers quelque chose qui le dépasse. Donc, Saint Thomas développe cette idée-là, et bien entendu, ça sera développé pendant les siècles qui suivent, jusqu'à la dernière grande scolastique, qui est en Espagne au début du XVIIe siècle, où on raffine encore, notamment par exemple sur cette question de prix. Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, un paysan vend parce qu'il doit vraiment vendre, même si le prix est très bas? Là, on considère qu'à partir d'un certain degré, c'est plus un marché libre parce que la contrainte le presse trop fort. C'est là où il y a quand même, on n'est pas sur les théories du marché qu'on trouvera après, qui est n'importe quelle situation d'offre et de demande. Là, c'est une offre et une demande qui s'établit, où les gens participent tous avec un souci de la justice et où personne n'est contraint, ni acheteur ni vendeur, d'une manière qui, à ce moment-là, altère sa capacité de jugement et sa capacité à exprimer son besoin autrement qu'en se mettant à la merci ou de l'acheteur ou du vendeur, selon la position où on se trouve. Donc, vous avez beaucoup de développement sur des questions économiques. On va demander ce qui est licite et pas licite. Une chose qui va être trouvée totalement licite, c'est l'investissement, notamment l'investissement, nous dirions aujourd'hui, au capital ou en action. Il y avait plusieurs formes à l'époque. Alors, il y avait par exemple le bateau. On envoyait un bateau pour aller vers les pays différents, donc soit vers le monde musulman, soit pour aller au-delà du monde musulman, plus loin vers l'Inde ou la Chine, en essayant de traverser la route de la soie, etc., prenait un risque colossal, évidemment. Donc, c'était financé en fonds propres, donc des gens mettaient de l'argent, bien entendu. Il y en avait un qui partait avec les marchandises et un équipage, et ainsi de suite, puis les autres apportaient du capital. Ça a paru complètement normal. Vous aviez aussi la première société par action, qui est le moulin du Bazac à Toulouse, qui a fonctionné jusqu'au XIXe siècle. Société...
Comment, 13e?
Qui est au 13e, oui. Le moulin du Bazac, qui fonctionne exactement comme ça. Les gens apportent de l'argent, ils ont des parts, ils décident ensemble, et ainsi de suite. Saint Thomas dit tout ça est parfaitement licite. Il se pose même la question, est-ce qu'être un marchand, c'est-à-dire... acheter moins cher pour vendre plus haut. Est-ce que c'est licite? Parce que théoriquement, si vous vendez au juste prix, vous devriez en au même prix. Mais il dit oui. Il dit oui, pourquoi? Parce que le marchand apporte un service, soit parce qu'il apporte les marchandises, il les fait voyager, il les fait valider, il les consente, il les présente, il les offre, et ainsi de suite. Donc il apporte un vrai service. Aristote lui disait que c'est un métier déshonorant. Pour lui, le marchand, déshonorant, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas être sage puisqu'il traite de l'argent, et l'argent, le besoin d'argent, ou le désir d'argent est sans limite. Le désir de manger atteint ses limites, le désir d'argent est sans limite. Saint Thomas, il dit non. Non, ça dépend comment il le fait. Si ce marchand le fait avec comme priorité principale dans sa vie de rendre un service à la communauté et puis de nourrir sa famille, c'est tout à fait honorable, c'est un métier comme un autre. Si évidemment, s'il le fait pour faire le maximum de fric et accumuler, alors là, plus du tout. Alors notamment accumuler, c'est-à-dire le Moyen-Âge, une chose qu'on déteste, c'est l'avarice. L'avarice, c'est-à-dire l'accumulation, l'argent qui ne circule pas. L'argent, ça doit circuler. L'argent qui ne circule pas, c'est l'horreur absolue. C'est beaucoup plus grave que les crimes sexuels. Un truc sexuel au Moyen-Âge, on comptait un peu, c'était pas très grave, je veux dire. L'avarice, ça, c'est l'horreur absolue. Alors, c'est ce qui nous mène à la question du taux d'intérêt et de l'usure, parce que c'est là le point où il y a eu des analyses raffinées, mais ne sont pas celles qu'on ferait aujourd'hui. Il y a une divergence beaucoup plus grande. Alors, quand je parle d'usure, là, il faut bien voir que c'est dans le sens latin de l'époque, c'est le taux d'intérêt au sens actuel. C'est pas l'usure au sens actuel. L'usure au sens actuel, c'est un taux d'intérêt injuste, démentiel. Là, non, c'est un taux d'intérêt tout court. Est-ce que, quand je prête de l'argent, je peux demander en même temps de l'intérêt? Bon. Alors, pendant le premier millénaire, la réponse était en général... Le droit romain était parfois réticent, mais l'autorisait. En général, dans l'Église, on disait « ça convient pas à un ecclésiastique, car un prêtre, encore fortiori un moine, non ». Les laïcs, bon. Et puis ça s'est durci au XIIe siècle, justement. Ça s'est durci dans le sens d'une interdiction de principe. C'est-à-dire qu'on faisait un raisonnement qui est assez curieux, qui est de dire, si je prête un morceau de pain, le morceau de pain est consommé. Je n'ai droit, en équité, puisque l'échange doit être égal, en retour, qu'à un autre morceau de pain comparable. Et on disait, l'argent c'est pareil. L'argent est consommé, puisque lui devient propriété de l'autre, qu'il utilise. Et donc, on doit rendre la même chose. Que l'argent par lui-même n'est stérile et produit rien. Donc, si on veut facturer quelque chose en plus, c'est facturer deux fois l'argent et l'usage de l'argent, alors que l'usage de l'argent ne se sépare pas de l'argent lui-même. Donc, ce raisonnement qui est repris ensuite pendant des siècles, hein, le raisonnement de base, qui consistait à dire à ce moment-là, en aucun cas, on peut demander un intérêt quand on fait un prêt. Encore une fois, vous voyez le contraste avec l'actionnaire qui prend des dividendes. Le dividende, il n'y a aucun problème, parce que l'actionnaire est solidaire, il prend ses risques avec la personne, et il a une propriété de part. L'autre est dans l'illusion fausse que c'est l'argent qui gagne. Parce que ceux qui gagnent, ceux qui fructifient, bien entendu, on voit bien qu'il y a de la fructification, c'est l'activité humaine, le travail au sens large, le travail au sens physique, mais aussi l'ingéniosité, etc. Je disais, par exemple, il y a des gens qui objectaient, ah ouais, mais je prête de l'argent à quelqu'un, il va le faire fructifier, moi j'ai pas droit au fruit, etc. Et donc la réponse était, oui, mais attends, il le fait fructifier, c'est lui qui le fait fructifier, c'est pas toi, donc t'as rien à demander de plus. Alors, comme je l'ai dit, en même temps, il y a quand même un développement économique non négligeable. Donc, et Marchand cherchait à expliquer que, qu'ils ont de l'argent, eux, ils voient bien que ça joue quand même un rôle dans la fructification. C'est-à-dire que s'ils ont de l'argent pour faire fructifier, ben, ça marche beaucoup mieux que s'ils n'ont pas d'argent. Donc, il y a quand même une certaine contribution. Et alors, on a pris des notions emprunté à l'origine au droit romain, mais développé largement dans ce cadre-là, et notamment, il y en a trois ou quatre, il y en a une qu'on appelle le lucrum cessans. Lucrum cessans, c'est le profit qui s'arrête. C'est-à-dire, je suis marchand, j'ai de l'argent qui roule, qui tourne dans mon activité, j'achète, je vends, etc. Je prends une partie de cet argent et je le prête à quelqu'un. Mon activité diminue. Donc, je perds quelque chose. Donc, là, je peux avoir droit à une compensation. Mais c'est bien dans l'idée que parce qu'il y a un processus productif et que je me prive de du résultat, que je peux avoir droit à une certaine compensation. Bon, comme on l'a dit, là, je fais un saut très très rapide. Dans une société comme la nôtre, on pourrait presque prétendre qu'il y a un locum cessans permanent. Parce que dès que j'ai de l'argent, je peux le placer quelque part. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, l'argent, où je le mettais dans une affaire concrète, ou d'abord où je suis un professionnel, si je ne suis pas un professionnel, je le mets dans une affaire d'un professionnel. Je peux le mettre aussi dans de l'immobilier, mais le loyer d'un immeuble, lui, était jugé licite parce que l'immeuble n'est pas consommé. C'est-à-dire qu'on peut distinguer la propriété de l'immeuble et l'usage de l'immeuble. Le propriétaire restait propriétaire. il prête l'immeuble, et cet usage est payé, mais l'immeuble ne bouge pas, donc c'est autre chose. Et donc, il y avait cette espèce de conflit entre une théorie qui prit une forme très rigide, et de notre côté, une pratique dont on voyait bien qu'elle conduisait à autre chose. Ce qui fait que, alors, ça a eu des avantages, c'est que ça a évité le développement de l'usure, non pas tout court, parce que l'usure au sens actuel, c'est-à-dire de taux d'intérêt très élevés, non pas le supprimer, tant s'en faut, il y en avait beaucoup, mais à le réduire de façon importante, et notamment parce que tous les interdits qui étaient portés s'appuyaient aussi sur des textes bibliques qui l'interdisaient, mais qui visaient essentiellement le cas d'un prêt à un pauvre dans le besoin. Donc ça a permis de le restreindre d'une manière importante. Quand on voit des pays, par exemple, comme la civilisation indienne, où il y a eu le développement massif de l'usure, et encore maintenant, même les microcrédits qui, par ailleurs, peuvent donner des résultats fabuleux, ont pu aussi être récupérés par les réseaux d'usuriers qui, du coup, avaient trouvé une enveloppe pour continuer sur une activité millénaire et qui était une totale catastrophe pour la paysannerie. Donc ça avait un bon côté de ce point de vue-là. Et ça a encouragé le prêt qui était massivement pratiqué, qui était le prêt amical. On était supposé prêter, c'est-à-dire le type qui allait voir son seigneur, il demandait un prêt, le seigneur était supposé prêter. Il ne faisait pas le serment, mais bon, il est mauvais, hein, mais enfin, il était supposé quand même. Donc, ça avait des avantages. Mais, évidemment, il y avait un petit problème théorique là-dessus. Alors ensuite, donc, vous avez eu la réforme qui, sur ce plan-là, Luther, à la limite, est encore plus dure que les auteurs catholiques du temps. Donc, il n'y a pas de changement chez Luther, sur ce point de ton intérêt. Le changement chez Calvin, parce que Calvin, précisément, dans le cas d'une activité progolutis, reconnaît le rôle, la fécondité possible de l'argent associé à du travail ou à de l'entreprise, sans passer par des concepts comme le Kunschessens et autres, c'est-à-dire beaucoup plus directement. Mais il fait un saut qui n'est pas massif, en fait, hein, par rapport à la doctrine du temps, mais qui au moins clarifie relativement les choses. Beaucoup plus récemment après, on a considéré illicite un certain taux d'intérêt limité, etc., dans l'idée que, dans le fond, on peut toujours, d'une manière ou d'une autre, faire fructifier de l'argent dans la société à des taux modérés, et que donc, en soi, c'est valable. Mais il reste toujours ce principe qu'on trouvera dans la doctrine sociale de l'Église, que l'argent tout seul ne fait pas des petits. Ça, il sera constamment réaffirmé. Ce qui fait que la doctrine sociale de l'Église réaffirmant la priorité du travail sur le capital, parce que, certes, le capital contribue à la production, mais ce qui est l'élément moteur créatif, c'est le travail au sens large, y compris l'entrepreneur, l'ingéniosité, y compris l'ingéniosité du capitaliste d'ailleurs, mais qui est une activité humaine. Mais en revanche, un compte en banque tout seul, il ne fait rien, il ne crée pas, il crée en association. Donc cette idée est restée, cette idée, à mon avis, garde sa valeur. Autrement dit, il y a eu une erreur dans l'analyse, je pense, hein, tout le monde ne le pense pas, hein, mais moi je pense que c'est une erreur d'analyse, mais plutôt bien intentionnée et au nom d'une thèse qui, elle, est moralement juste. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même une activité intense de réflexion sur ces sujets-là. Il y a eu, si je reste au monde catholique, une baisse relative, je regarde ma montre, là, parce que je vais garder de façon aberrante. Il y a eu une baisse relative au XVIIe, XVIIIe siècle, ben surtout fin XVIIe, début XVIIIe. Bon, évidemment, la révolution de l'Empire qui a secoué considérablement l'Église, qui a dû se reconstruire au XIXe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, vous avez le développement de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, où l'Église s'est remise sur ces thèmes-là. Ça a commencé donc avec Léon XIII, Rerum Novarum, donc les choses nouvelles de l'économie. Il parle notamment de la condition ouvrière, mais pas simplement. Et ça a continué jusqu'à nos jours avec une production assez régulière sur ces sujets économiques, sociaux et politiques, mais où le socio-économique est quand même très, très central. Alors, quand même une différence, c'est qu'évidemment, au Moyen-Âge et à la Renaissance, jusqu'au début du XVIIe siècle, où le monde catholique était ou la totalité du monde chrétien, ou une partie particulièrement riche, puisque, encore une fois, la banque jusqu'au XVIe siècle était dominée par les Italiens, ou par les Flamands, mais des Flamands catholiques. Donc ça a basculé au XVIIe siècle, c'est Brodel qui raconte ça très bien, où le monde protestant, notamment les Pays-Bas d'abord, puis l'Angleterre, a progressivement pris le dessus, financièrement, mais ça jouait un rôle central. Donc, toute cette réflexion était assez opérationnelle. Elle était dans un monde où la richesse et le pouvoir étaient là. Donc, ça avait une influence directe. Évidemment, l'influence n'est pas la même aujourd'hui. C'est-à-dire que même déjà sous Louis XIII, et a fortiori aujourd'hui, le monde économique dans nos sociétés n'est pas caractérisé par une piété chrétienne ou catholique impressionnante, visible, publique et affichée, même s'il était hypocrite. Ce n'est pas du tout le cas. Donc il n'a pas du tout la même influence. Donc là, à l'époque, c'était une influence complètement centrale. Alors Joseph Schumpeter, qui a écrit une histoire de la pensée économique dans les années 30, a bien mis en lumière cette importance centrale de la contribution des scolastiques, en fait, des penseurs de l'époque, au service de la réflexion économique. Parce qu'il est clair que les bases de ce qui sera l'économie politique ont été développées à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une évolution ensuite à partir du XVIIIe siècle et dont Adam Smith, à la fin du XVIIIe siècle, est la charnière. Adam Smith a écrit un traité des passions, des vertus, etc., qui est un traité moralisant. Et ensuite, il a traité la question plus économique, directement économique, dans le livre qui s'appelle « La richesse des nations »,« Wealth of Nations », et dont on retient presque toujours, tout le monde connaît, l'anecdote du boulanger où il dit « Si le boulanger vend son pain et cherche à faire un bon pain, c'est pas parce qu'il veut faire du bien, c'est parce qu'il veut gagner sa vie. » Et que donc il y a une espèce de vertu mobilisatrice efficace de l'intérêt qui est plus puissante que l'altruisme. Les gens l'ont retiré. C'était pas exactement ce que voulait dire Adam Smith. Et c'est ça qui a été retenu, non pas parce qu'on l'a mal compris, mais que tout simplement parce que l'esprit de l'époque allait dans ce sens-là. Et donc ensuite, l'économie politique s'est développée dans une atmosphère de neutralité éthique totale. Avant Adam Smith, l'économie politique est une partie de l'éthique. C'est-à-dire c'est dans les traités de morale qu'on s'occupait d'économie. Et ça, depuis le XIe siècle. Donc il y a un renversement culturel massif. Autrement dit, ce grand développement intellectuel était constamment mené par l'idée comment faire ça au mieux. Au mieux, donc en le faisant bien matériellement, mais en le faisant bien moralement. Après, ça a été, attendez, vous, vos valeurs et vos priorités, c'est votre problème. Il y a des lois par ailleurs, vous les respectez, bien sûr. Mais après, vous vous laissez jouer librement vos priorités, bonnes ou mauvaises éthiquement, c'est pas mon problème. Moi, si je m'occupe d'économie, je regarde comment les agencer au mieux pour que ça marche le plus efficacement possible. Mais je ne prends pas position sur cette dimension éthique. Donc c'est une mutation culturelle absolument, absolument massive. Et simultanément, bien entendu, alors que la doctrine sociale, elle, cherche constamment à réintroduire l'économie dans le contexte de l'éthique, en revanche, elle ne cherche pas à développer la partie plus technique de l'économie, laisse ça aux laïcs, contrairement à ce qui se faisait au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Alors, question intéressante dans ce cadre-là, c'est de voir quel est le rôle que peut jouer la religion dans le décollage économique de l'Europe, enfin, ce qui est devenu l'Occident avec les États-Unis qui sont rentrés dedans, etc., mais de l'Europe. Question que, comme vous le savez, Max Weber, dans les années 30, a traité un livre en l'attribuant essentiellement au protestantisme, et dans le protestantisme, plus exactement, au calvinisme, voire à une forme particulière de calvinisme, qui est le puritanisme britannique, anglais ou écossais, au XVIIe siècle. Pour faire un peu rapidement mon analyse à moi, de ce que je vous la donne, c'est qu'il a eu raison de voir le rôle très important de la religion, et plus généralement d'ailleurs des facteurs non économiques, parce que ce qui meut quelqu'un, ce qui le pousse à agir dans le domaine en général, va au-delà généralement de la pure avidité matérielle. Et bien entendu, tout le monde peut avoir l'avidité matérielle. Et en général, il y a des facteurs beaucoup plus riches, et surtout le cadre de raisonnement, comment il voit le monde, la société, lui-même, ainsi de suite. Or, dans ce cadre, selon ce qui constitue ce cadre, dans les sociétés où la religion, pour les personnes pour qui la religion est importante, évidemment, elle va jouer un rôle totalement central. Donc elle est très structurante pour ce qui va être la tonalité ou les caractéristiques de la vie économique. Bon, moi, ce qui me paraît, c'est que ce n'est pas le puritanisme en particulier, c'est le christianisme en général qui, dans cet a priori que j'ai noté, considérant la vie économique sous deux aspects, à la fois comme une réalité parfaitement légitime qu'il faut exercer, y compris par le travail, l'initiative et autres, et d'autre côté qui a quelque chose qui la dépasse infiniment, qui fournira un cadre dans lequel cette pensée se développera, avec une idée, une deuxième idée importante par rapport à celle du travail, qui est l'exercice de la rationalité dans ces domaines, et une troisième idée, c'est le temps non cyclique, le temps linéaire. Autrement dit, l'innovation passe très bien. Alors, il y a une comparaison qui est extrêmement intéressante à faire, c'est avec une très grande civilisation qui n'a jamais eu, qui n'avait pas de contact avec la nôtre, qui était la Chine, où vous aviez un empire unifié et avec une culture éminemment respectable, tout à fait développée, mais qui était basée sur une notion d'équilibre. Donc il fallait maintenir les équilibres. Alors il y a une anecdote tout à fait extraordinaire, c'est l'innovation technologique au Moyen-Âge. À l'époque, l'empire Song en Chine était plutôt assez inventif. Donc des gens inventaient des techniques. Au même moment, même chose en Occident. Par exemple, ils ont inventé en même temps des concepts d'horloge. Ce n'était pas exactement le même parce que les technologies n'étaient pas les mêmes. Mais peu importe. En Occident, quand les gens ont pu voir des horloges qui marchaient, comme en plus il y avait le besoin de savoir l'heure pour dire les heures canoniques de l'office divin, donc c'était un enjeu important, ça s'est répandu partout. Donc vous avez eu des beffrois partout qui mettaient des horloges là où ils pouvaient, ainsi de suite, et c'est devenu quelque chose de totalement répandu et généralisé. En Chine, on s'est dit, oulala, ça rythme la vie collective. C'est parfaitement vrai. Donc il faut le mettre entre des mains responsables qui maintiennent l'harmonie de la société. Et donc il y avait une horloge dans les préfectures, les sous-préfectures, etc., puis pas ailleurs. Il ne fallait pas qu'il y en ait ailleurs, parce que ça mettait la pagaille. Ce qui d'ailleurs n'était pas faux, parce qu'on le voit dans la vie collective occidentale, elle est beaucoup plus décentralisée, elle est beaucoup plus pagailleuse. On le voit aussi dans un autre domaine qui est la poudre à canon, inventée par les Chinois, comme vous le savez, passée en Occident. Alors en Chine, on s'est dit, oulala, mais c'est très dangereux ce machin-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a réservé au feu d'artifice. En Occident, ils ont vu les possibilités. Ça a donné à la naissance de l'artillerie, puis après du fusil, puis après ainsi de suite. Bon, ce qui fait qu'évidemment, du coup, les Occidentaux étaient beaucoup plus puissants militairement sur leurs bateaux qu'ils avaient développés dans l'intervalle. Et là, même phénomène, la Chine, à l'époque, la dynastie Yuan et les Mongols, donc des horribles étrangers, avait lancé des flottes avec des jonques colossales jusque sur la côte africaine. Et puis il y a eu une révolution nationaliste avec les Ming. Et on a dit, mais c'est complètement imbécile. Nous avons un pays civilisé, et nous dépensons beaucoup d'argent pour aller voir des barbares. C'est complètement idiot. Donc, et bien en plus, c'est déséquilibré. C'est pas une attitude convenable pour des gens qui cherchent la sagesse. Donc, on arrête. Pendant ce temps-là, un tout petit pays au bout de l'Europe, en gros, a découvert la planète au même moment. C'est Portugal, qui s'est mis à envoyer des gens un peu partout, et qui ont fini par faire le tour du monde. Donc, vous voyez la différence d'attitude. Et il y a, effectivement, dans le christianisme, cette notion d'un temps qui est non répétitif, qui bouge, qui n'est pas maîtrisé, qui est maîtrisé par qui que ce soit, et dans une société qui était en plus assez décentralisée, et où un pouvoir politique ne pouvait pas s'emparer en même temps du pouvoir normatif, collectif, au niveau suprême, religieux, puisqu'il y avait dualité. Il y avait le pape, puis les évêques, et puis il y avait l'empereur et les rois. Bon, en plus, l'empereur avait du mal à contrôler les rois. Mais en dehors de ça, il avait le pape devant lui. Et donc, il y avait deux mondes. C'est un monde beaucoup plus pluriel. Donc, je pense que c'est dans ce monde-là que s'est développé, effectivement, les bases mentales qui ont permis le développement économique. Il a fallu, évidemment, d'autres éléments, et notamment un certain degré d'accumulation suffisant, et puis, bien entendu, certaines découvertes technologiques, comme la machine à vapeur, des choses comme ça, qui ont donné des outils qui ont permis d'accélérer le développement. plus le développement de la science, mais qui est aussi une spécificité sous cette forme-là. Notre civilisation, bien entendu, ont des découvertes souvent remarquables. Alors, la Chine le montre très clairement, mais pas ce côté systématique que ça prendra en Occident. Donc, à mon avis, c'est plutôt le christianisme en général. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un rôle particulier à une époque du protestantisme, mais il y avait eu un rôle particulier du catholicisme deux ou trois siècles avant, comme on le voit dans le domaine financier, puisque là, l'invention est essentiellement en milieu catholique. Et donc, vous le voyez, il y a eu, certainement jusqu'au XVIIIe siècle, une relation à la fois de symbiose, d'amour-haine et de stimulation mutuelle entre la foi chrétienne des gens, sous des formes variées, et l'activité économique. Alors évidemment, maintenant, on est dans un cas tout à fait différent, parce que l'influence n'est pas la même. De notre côté, on voit aussi quand même les limites on l'a vu avec la crise de 2008, d'une conception de l'économie dans laquelle l'éthique ne joue pas un rôle central. Donc, vous savez, le personnage du film, là, comme j'ai oublié le nom, le personnage s'appelle Gecko et qui dit publiquement, comme un truc fondamental, « Great is good », l'avidité est bonne. Ce qui est exactement l'opposition inverse de ce que racontait au Moyen-Âge, au moment même où c'était en plein développement. C'est-à-dire, ce n'est pas le Moyen-Âge des campagnes arriérées, c'était le Moyen-Âge italien en plein boom et économique. Où quelqu'un qui aurait dit « l'avidité, c'est bon », l'aurait pris pour un cinglé. D'abord, avant même de se demander s'il est... Parce que c'était une absurdité complète. Donc, on est quand même passé sur d'un cadre mental radicalement différent. Je le regarde là encore, l'envoyé est à peu près. On avait...
Oui, oui, encore ça.
Donc, voilà. Donc, vous avez maintenant donc, une situation dans laquelle il y a développement de la doctrine sociale de l'Église. La première phase de développement, qui est celle de Léon XIII jusqu'à la guerre de 14, avait encore des éléments d'influence tout à fait considérables. C'est-à-dire que des patrons chrétiens ont pu jouer un rôle tout à fait significatif pour des institutions, notamment qui seront après à l'origine de la sécurité sociale. Je pense des choses que nous appellerions d'assurance maladie ou retraite, mais c'est des éléments plus primitifs, évidemment, mais qui aboutiront à ça. Vous avez un syndicalisme chrétien non négligeable, même tout à fait considérable, se référant très clairement et directement à Léon XIII. Donc vous avez un rôle important. Bon, après, vous avez les deux guerres et la crise de 29 qui ont absorbé la tension. Après la guerre, au moment du Concile Vatican II, il y a eu une tendance à mettre un peu de côté la doctrine sociale en question. Et en réalité, elle a été maintenue par Paul VI et ensuite considérablement développée par Jean-Paul II, suivi de ses deux successeurs, chacun à sa façon dans des domaines différents. Alors, dans cette nouvelle phase... Il est clair que ce qui est dit, notamment au niveau du magistère, des papes, etc., a un retentissement. Il est manifeste aussi que c'est un retentissement dont l'effet concret est relativement limité. Je pense qu'un des domaines d'action souhaitable est l'investissement. Dans cette optique-là, l'investissement socialement responsable, l'élargissement des notions ESG qui dominent, etc., mais l'investissement éthique sous toutes ses formes reste très minoritaire. Donc on est dans une période assez notablement différente, où ce discours s'étoffe, mais ce qui manque, évidemment, c'est un degré suffisant d'irrigation en dessous. Bon, en même temps, des choses que je vois, par exemple, aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui sont œcuméniques, donc très grosse majorité catholique, pour raison évidente, mais pas uniquement... C'est un mouvement en pleine croissance. Donc on voit que, je veux dire, l'entrepreneur, la notion d'entrepreneur, la notion de christianisme vont extrêmement bien ensemble. Parce qu'un entrepreneur, fondamentalement, ce n'est pas quelqu'un qui fait des calculs financiers en permanence. S'il fait ça en permanence, à mon avis, il ne va pas très loin. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a besoin, au sens beaucoup plus large du terme, d'une forme de foi, d'une forme de générosité, d'une forme d'espérance. Et donc, bien entendu, qu'ils sont dans ce domaine-là assez différents dans leur objet par rapport à ce qu'elles sont au niveau théologique, mais qui a une affinité forte. Autrement dit, Pour reprendre un exemple historique, les Portugais ne seraient pas partis sur leur coquille de noix s'ils n'avaient pas la foi, parce que c'était complètement cinglé. S'ils avaient fait juste des calculs financiers, ils seraient restés tranquillement avec leurs oliviers à Porto ou à Lisbonne. Mais ils ont vécu quelque chose qui les a mis bien au-delà d'eux-mêmes. Et donc il y a cette affinité qui reste, potentiellement, qui fait que... Il n'y a pas simplement le côté moral au sens « ordonnez-vous moralement », mais il y a aussi le fait que vous êtes bien meilleur en économie si vous allez au-delà de l'économie, si vous n'êtes pas là uniquement tout le temps à calculer. Et donc ça, c'est un message qui est potentiellement fort, même si, effectivement, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui, socialement, est impressionnant dans ses effets aujourd'hui, dans des sociétés très différentes. Mais ça, d'un point de vue chrétien, ce n'est pas un problème, puisqu'il y a des siècles, et puis ça monte et ça descend, et puis l'avenir est complètement ouvert. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci. Merci, monsieur le président.